Bonjour à toutes, bonjour à tous, bienvenue dans la JT du local. Nous sommes aujourd'hui le mardi 25 janvier, deuxième émission de cette semaine où on va parler évidemment de cette organisation de producteurs lancée il y a 6 mois, l'organisation de producteurs laitiers Les Trois-Rivières qui regroupe la Sarthe, la Mayenne et le Maine-et-Loire. On le verra aussi pour plus peser dans les négociations avec la laiterie. Et puis on va aussi parler d'un court-métrage, proposé et confectionné de A à Z par François Parmentier, réalisateur, pour lutter contre l'isolement. Et il ira jusqu'au bout de la démarche, vous l'entendrez. On est mercredi, jeter un coup d'œil sur le programme dans les salles obscures cette semaine avec le coup de cœur ciné d'Atmosphère 53. Et on commence, une fois n'est pas coutume, on commence notre feuilleton de cette semaine autour d'une maison proposée pour les enfants, justement, dans l'aide de la protection sociale, la protection à l'enfance. Mais évidemment, d'abord, je salue Andy. Salut Andy.
Salut Marie, ça va bien ?
Ça va, impeccable pour commencer cette émission de mardi. Avec un petit point sur l'actualité, on vous en parlait hier puisqu'un accord a été trouvé après la grève de la polyclinique du Maine, puisqu'ils étaient 90 soignants à manifester hier à Laval pour réclamer une revalorisation des salaires et une partie de leurs revendications a été satisfaite. Les salariés ont obtenu une hausse de 30 euros par mois pour une aide-soignante débutante et de 40 euros pour une infirmière en début de carrière. Cette hausse monte à 1% pour les salariés en dessous du SMIC. Ils ont aussi obtenu une prime de transport de 200 euros et une prime de pouvoir d'achat de 300 euros. Un nouveau soutien pour la grève vendredi du service psychiatrie de l'hôpital de Laval, celui de l'Association des citoyens contre les déserts médicaux, qui, comme Force ouvrière et la CGT, appelle à rejoindre cette manifestation prévue vendredi à 15h devant le centre hospitalier. Il n'est pas concevable ni acceptable de voir disparaître 25% des lits d'hospitalisation de psychiatrie en Mayenne, selon l'association. Ils dénoncent également un manque de soignants et ils dénoncent leurs conditions de travail. 17 classes pourraient fermer en Mayenne à la prochaine rentrée. La carte scolaire devrait être entérinée le 3 février prochain, mais les syndicats ont déjà donné les grandes lignes après un comité technique spécial départemental. 6 classes pourraient donc ouvrir en septembre 2022 en Mayenne, contre 17 fermetures envisagées. Une véritable hécatombe dans nos écoles mayennaises, selon le SNUDIFO 53, qui, comme les autres syndicats, rejette ce projet de carte scolaire. Ce soir, vous pourrez poser vos questions directement à Olivier Richefoux, puisque le président du département de la Mayenne organise un Facebook Live avec les habitants à partir de 18h. Ce rendez-vous pourrait d'ailleurs devenir mensuel et permettrait de discuter des questions d'actualité. Elles sont venues d'Argentine et préparent les JO à Château-Gontier. Depuis la semaine dernière et jusqu'au 20 février, 10 judokas de la sélection argentine s'entraînent en Mayenne avant les Jeux Olympiques de 2024 à Paris. La ville de Château-Gontier a candidaté pour être centre de préparation pour les sportifs, pour évidemment les prochains JO. Et puis c'était l'un des emblèmes du refuge de l'Arche. La panthère Inda est morte il y a quelques jours à l'âge de 21 ans. Elle avait été recueillie par le refuge de l'Arche à Château-Gontier en décembre 2009. Se regrouper pour être plus fort. C'est l'objectif des adhérents de l'OP, l'organisation de producteurs Les Trois-Rivières, qui regroupe depuis 6 mois la Mayenne, le Maine-et-Loire et la Sarthe. Ils sont 397 au total, dont 203 en Mayenne, pour une production totale de 250 millions de litres de lait. Et avec l'OP, ils espèrent peser sur les négociations avec la laiterie pour être mieux rémunérés et faire face notamment à l'explosion des charges. Claude Marchais est le président de l'OP Les Trois-Rivières.
L'objectif, c'est de retrouver un esprit d'équipe qu'on n'avait plus auparavant et d'avoir cette motivation, cette force d'envie de travailler ensemble. Auparavant, on était plus ou moins dispersés, c'était plus difficile. Aujourd'hui, c'est vraiment du local, donc on se retrouve beaucoup plus facilement. On a les mêmes soucis, les mêmes problèmes. C'est vraiment beaucoup plus local et on peut en parler beaucoup plus facilement, quoi. Mais la déprise des tiers, aujourd'hui, elle est vraiment acquise. La courbe démographique est là. Dans les 5-10 ans, il y a vraiment une perte d'exploitants du lâche qui va arriver. Mais on a aussi aujourd'hui des exploitants qui arrêtent par découragement, beaucoup. Et il y a aussi la concurrence des céréales aussi qui vient percuter aussi par rapport au lait. Les gens laissent partir les vaches et une fois que les vaches sont parties de l'exploitation, elles ne reviennent plus, quoi. C'était plus aussi se rapprocher, parce qu'aujourd'hui on a 2 sites de production, Tessier et Perrault. Donc voilà, c'était aussi pour travailler plus en local avec ces usines. Aujourd'hui, on rencontre ces usines pour connaître leurs besoins, essayer de leur fournir un produit le plus juste possible par rapport à leurs demandes, quoi. Aujourd'hui, on n'a pas encore le retour qu'on peut espérer. C'est tout le travail qui reste à faire. Mais on a bon espoir et voilà, aujourd'hui on a un bon partenariat avec notre acheteur qui est Savantia. Il n'y a pas de raison que ça ne se passe pas bien. L'idée c'est d'avoir une image, enfin une reconnaissance de l'OP auprès de nos consommateurs. Donc ça c'est un projet qui va se faire plutôt sur 2023. On y travaille, on y réfléchit. Comment, pourquoi, c'est encore des choses qui sont un peu trop floues pour l'instant. C'est du 7 jours sur 7, 365 sur 365. Donc si l'exploitation ne dégage pas suffisamment de revenus pour se payer en vacher de temps en temps pour pouvoir prendre un peu de repos, on va dire, ne serait-ce que du repos et encore mieux quelques vacances, et bien vous êtes toute l'année et toute votre vie sur l'exploitation sans bouger. Quoi. Donc justement, on est en train d'y travailler, il y a un groupe qui est en train de réfléchir à l'intérieur de votre OP pour comment essayer d'attirer ces jeunes, comment essayer de donner une image différente de notre métier. Ce sont des choses qui vont se faire dans les mois qui viennent. Là, on est vraiment en réflexion. Quoi.
Et puis, autres enjeux à long terme pour les producteurs, les dossiers sur le bien-être animal et la diminution de leur empreinte carbone. Vous pouvez retrouver leur lait dans les fromages Caprice des Dieux, Folépi et Vieux Panet, qui sont produits par la fromagerie Perrault à Azé et à Mélay du Maine.
Et puis maintenant, avant d'écouter l'interview de François Parmentier sur son court-métrage pour dénoncer l'isolement, on va écouter How Long de Vampire.
Tough choice, don't make me laugh. My life's a joke, your life's a gas. You broke my heart at midnight mass. Now I'm the ghost of Christmas past. The only choice you gave to me is one I took reluctantly. Cause when we bled democracy, you always take immunity. How long do we sink to the bottom of the sea? How long, how long? How long? Do we sink and it's only you and me? How long, how long, how long, how long, how long, how long, how long? What's the point? Getting clean, you wear the same old dirty jeans. What's the point of being seen? Those eyes are cruel, those eyes are mean. What's the point of human beings? A sharpie face on tangerines. Why has it felt like Halloween since Christmas 2017? How long? Supposed to be this hard. The house is on Mulholland Drive. The car's on Sunset Boulevard. The registration's here with me. Neither of us has the key. We can live down in the flats. The hills will fall eventually. How long till we sink to the bottom of the sea? How long, how long? How long till we sink? And it's only you and me. How long? How long? How long? How long? How long? How long? How long?
C'était Vampire Weekend, How Long, dans l'AJT du local sur l'autre radio. Et on va parler du film en stop motion de François Parmentier, qui espère sensibiliser sur l'isolement. Il a sorti son court-métrage en ligne il y a un peu plus d'un mois et son nom, justement, Malgré l'isolement, c'est l'aboutissement d'un projet d'un an inspiré notamment par le confinement et la détresse psychologique des étudiants. Nous l'avons contacté en visio pour faire un petit bilan de cette expérience et de ce grand projet.
Je m'appelle François Parmentier, j'ai 36 ans, je suis vidéaste et photographe, donc pour les particuliers ou pour les professionnels. Et depuis peu, je me suis lancé dans la création d'un court-métrage avec des figurines articulées avec la technique stop motion.
Ce court-métrage, justement, Malgré l'isolement, qui est sorti il y a un petit peu plus d'un mois maintenant, et c'est un projet qui forcément a été aussi longuement mûri. Comment est venue cette envie et cette idée il y a un petit peu plus d'un an maintenant?
En fait, j'ai toujours voulu créer un court-métrage comme cela. Je voulais même faire mon métier quand j'ai regardé les films Pixar quand j'étais plus jeune. Je voulais faire animateur 3D ou alors faire des films d'animation avec des figurines articulées. Et récemment, je me suis rendu compte qu'il n'y avait pas besoin forcément d'avoir fait des grandes études là-dedans, dans le cinéma, qu'aujourd'hui, on pouvait le faire par soi-même, en fait. Donc, j'ai décidé d'acheter un squelette articulé professionnel et que j'ai ensuite fabriqué de toutes pièces avec pour créer le personnage avec des décors.
Alors, peut-être raconter un petit peu l'histoire, justement, de ce court-métrage. On suit donc Marc, le personnage, et allez-y, je vous laisse poursuivre.
Alors Marc, c'est quelqu'un qui est au bord de la dépression et qui va vivre le confinement d'une manière encore plus dure. Donc, il va laisser les jours passer qui vont se ressembler vraiment les uns aux autres, et il va se passer quelque chose d'imprévu, et ça va changer la vie de Marc, en fait. Donc je laisserai les auditeurs découvrir dans le film, mais c'était vraiment pour passer un message comme quoi il n'y a pas de fatalité dans toutes les épreuves difficiles, il peut y avoir une issue qu'on ne peut pas imaginer à l'avance, en fait.
C'était aussi un petit message d'espoir, oui, en ces temps de pandémie, encore et toujours, c'est-à-dire au moment où vous l'avez commencé et encore aujourd'hui.
Ben oui, puisque moi je l'ai créé au moment où il y avait beaucoup d'étudiants qui vivaient mal les différents confinements, qui devaient suivre les cours via leur ordinateur. Et je me suis dit, je vais me lancer dans ce film-là pour une période, je savais pas exactement combien de temps, donc une année. Et j'étais loin d'imaginer que ça soit toujours d'actualité une fois le film sorti, en fait.
Encore d'actualité, mais c'est vrai qu'aussi quand on regarde le court-métrage, forcément, au-delà de l'histoire, de la poésie aussi de l'histoire, moi ce qui m'a interrogé, c'est vraiment la fabrication. Donc il y avait vraiment, tout a été fait autour de cette marionnette articulée. J'imagine que ça a dû prendre du temps. Comment est-ce que vous avez travaillé? C'est ça qui vous a pris le plus de temps? C'est vraiment la confection des décors, le travail avec la marionnette?
Oui, finalement, le temps que j'ai passé, c'était... On pourrait croire que c'est de faire des photos image par image pour faire 24 photos par seconde. On pourrait croire que c'est ça qui prend le plus de temps. Non, en fait, c'était la fabrication du personnage, la fabrication des décors et surtout le montage ensuite, puisque Marc, c'est un personnage qui ne tient pas debout de lui-même. Il faut mettre un bras en acier derrière lui. Et tout ça, il faut le supprimer pour pas le voir, bien sûr, pour donner l'illusion d'avoir un personnage qui tient de lui-même comme un humain, quoi.
Et c'est ça qui, oui, peut-être a été le plus compliqué dans cette aventure?
Alors c'est ça qui a été le plus compliqué, puisqu'il faut prendre une photo du fond et ensuite faire un système de cache en utilisant le décor pour le mettre à la place du bras en acier. Et puis il a fallu aussi, comme le personnage n'est pas forcément parfait, il a des mains qui sont d'une couleur différente de sa tête, il a fallu détourer toutes les mains image par image pour les colorer de la même couleur que sa tête, pour pas que que les personnes qui regardent le film sortent de l'histoire rien qu'en regardant les mains, en fait.
Donc oui, finalement, c'est beaucoup, beaucoup de petits détails, finalement, auxquels on ne pense pas. C'est vrai qu'aussi, on ne se rend pas forcément compte de l'échelle quand on regarde le court-métrage. En fait, j'imagine que tout est à l'échelle de la marionnette, donc assez petit, et pourtant, ça ne transparaît pas du tout à l'image.
C'est une échelle, c'est au 1/6. Donc le personnage, il fait environ 20-25 cm. Donc tout a été calculé pour créer un décor à l'échelle du personnage. Et c'est ça qui était très important, c'était d'avoir le souci du détail, puisque ben, mon appareil, en fait, il a filmé en zoomant en permanence. Et forcément, quand on zoome sur quelque chose, il suffit d'une petite erreur pour pouvoir voir que ça. Donc, il a vraiment fallu travailler les détails au maximum. Et c'est pour ça que j'ai coloré les mains, comme je le disais tout à l'heure, puisque un petit détail peut nous évader et nous permettre de sortir de l'histoire. Et pour 5 minutes de film, il ne faut pas que la personne puisse décrocher vraiment son attention.
Depuis que c'est en ligne, donc depuis un mois à peu près, quelles ont été les réactions, en tout cas des spectateurs? Est-ce que vous avez déjà eu des retours?
Alors, j'ai eu beaucoup de retours positifs. J'ai aussi eu des retours grâce au making-of que j'ai mis aussi sur ma chaîne Vimeo. J'ai mis un making-of de 20 minutes. Et là, en ce moment, je suis en train de commencer à m'inscrire pour les différents festivals pour lesquels je vais concourir pour permettre de gagner des lots et pouvoir donner une partie des bénéfices à des associations pour les personnes isolées.
Ça, c'était déjà en fait l'objectif de départ. Et donc là, le but, c'est de pouvoir le concrétiser par la participation à différents concours, c'est ça?
Voilà, c'était l'objectif de base pour pouvoir avoir un but social au film. C'est pour ça que là, je me suis inscrit donc au festival, un festival en stop motion de Cannes, un festival stop motion pour New York, un pour Long Island aussi aux États-Unis et un autre au Danemark. Donc j'ai l'intention encore de m'inscrire pour d'autres festivals sur toute l'année. Et puis on verra l'avancée des inscriptions, puis ensuite des sélections et enfin la réalisation du festival. Il y a un petit peu de dialogue, j'ai fait des sous-titres en anglais, donc il y a une version anglaise pour pouvoir permettre aux personnes dans le monde entier de pouvoir voir le court-métrage. Et puis le truc aussi qui est plutôt positif, c'est que c'est une technique qui a été un petit peu délaissé ces temps-ci avec tout le numérique, les films d'animation, etc., ou les films, normaux avec des personnes en tant qu'acteurs. C'est des techniques qui sont un peu délaissées, donc il n'y a pas beaucoup de personnes à s'inscrire pour des festivals. Donc c'est vraiment quelque chose qui est accessible et ça permet d'avoir accès à plein de différents festivals dans le monde entier, quoi.
J'avais cru lire aussi par ailleurs que l'objectif, c'était entre autres de pouvoir le diffuser dans certains cinémas aussi. Est-ce que c'est toujours d'actualité?
Oui, alors avec les conditions sanitaires, etc., c'est un petit peu en suspens, mais je suis en contact avec certaines personnes qui programment des séances de courts-métrages dans des salles mayennaises. Donc, je suis en train de discuter avec eux pour voir comment faire et pourquoi pas associer ce film à une conférence pour expliquer la technique et aussi, pourquoi pas, parler de l'isolement pour vraiment faire quelque chose de complet, un projet, pas juste une diffusion de 5 minutes de film, mais un projet vraiment concret avec un but derrière social. Oui, j'avais vraiment l'intention de faire un projet culturel, mais ça c'est quelque chose, ma patte artistique, c'est quelque chose de très personnel, mais je voulais pas seulement intégrer ce que j'aime moi, je voulais aussi intégrer quelque chose qui puisse aider les autres, qui puisse concerner aussi les gens et qui puisse faire avancer les choses en fait. Donc je pense qu'à la fin je suis arrivé avec un projet vraiment complet et c'est ça qui donne vie aussi au film et qui va pas donner vie au film juste 5 minutes le temps de le regarder, c'est quelque chose qui a une histoire derrière. C'est pour ça que je m'inscris à des festivals et que j'ai l'intention aussi de le faire vivre par le biais de conférences, de rencontres, etc.
Et d'avoir terminé aussi, là, le présenter aussi le making-of, j'imagine que c'est aussi une fierté, puisque c'était un gros projet, hein, pendant un an, j'imagine que ça vous a pris du temps. Qu'est-ce que vous avez le plus apprécié et est-ce qu'il y a eu cette fierté, en tout cas aujourd'hui, d'avoir réussi à accomplir ce projet?
La fierté, c'est un petit peu la persévérance, en fait, et la patience, parce qu'on n'a pas forcément conscience de toute la patience dont on peut faire preuve en fait tant qu'on n'a pas dans un projet difficile. Quand on est la tête dedans, on se rend pas compte de toute la patience qu'il faut puisqu'on a vraiment envie d'y aller, on a envie d'atteindre notre objectif. Et en faisant le making of, j'ai un petit peu fait le récapitulatif de tout ce que j'avais fait et c'est là où je me suis dit mais oui en fait les mains, j'ai fait 6 ou 7 tests que j'avais pas du tout réussi et aujourd'hui je me pose encore la question comment j'ai fait pour pouvoir faire le 8e test. Qui a été concluant, parce que comment j'ai fait pour arriver jusqu'à 8, en fait, avec que des échecs juste avant. Et c'est là où on se dit, mais en fait, quand on aime faire quelque chose, on a la patience qu'on pense ne pas avoir si on fait pas de projet, en fait.
Est-ce que ça vous donne envie de repartir sur un autre projet un peu similaire ou même complètement différent, mais en tout cas avec cette persévérance que maintenant vous savez que vous avez sur des projets qui vous tiennent à cœur?
Oui, après, tout ce qui concerne l'image, moi, je suis vraiment passionné par tout ce qui est photographie, tout ce qui est stop motion, donc les films, vraiment en général, tout ce qui est visuel au niveau de l'image. Là, je suis un petit peu parti sur des photos animalières, quelque chose qui va demander un peu plus de patience puisque c'est observer les animaux, et etc. Donc ça, c'est plus un projet personnel en parallèle de tous les shootings photos que j'ai avec des particuliers ou avec des professionnels. Donc je prendrai le temps que j'ai de libre pour pouvoir déjà décrypter la nature, observer, et ensuite pouvoir faire des photos en ayant connaissance des animaux que j'ai l'intention de prendre en photo. Donc encore un aspect de patience qu'il va falloir développer une fois sur le terrain. Et le but pour moi, c'est toujours d'apprendre et de découvrir des nouvelles techniques. Donc c'est des choses qui sont complètement différentes, rien que sur l'aspect technique, quand on prend un appareil photo pour faire du stop motion, on va devoir prendre un zoom pour pouvoir faire des images vraiment très proches, alors que pour faire des photos animalières, il faut un autre type de zoom complètement différent pour pouvoir donner l'impression qu'on est juste à côté de l'animal, mais en fait on est à environ 300 ou 600 mètres en fait. Donc ça va être complètement différent en fait, mais c'est une nouvelle technique que j'ai envie d'apprendre sur le terrain, un nouvel objectif en fait.
Peut-être juste pour terminer, rappeler où est-ce qu'on peut retrouver donc ce court-métrage malgré l'isolement.
Alors on peut le retrouver sur Vimeo, sur la plateforme d'hébergement de vidéos Vimeo. Il suffit de mettre malgré l'isolement François Parmentier et vous allez trouver normalement la vidéo sur cette plateforme-là. Sinon, vous pouvez aussi aller sur le Facebook professionnel F Parmentier Visual. Donc ça, c'est ma page Facebook et j'ai aussi ma chaîne YouTube et une page Instagram F Parmentier Visual aussi.
Le court-métrage a déjà été vu plus de 400 fois par les différents biais dont on a parlé et le sera sans doute bien plus avec les futures séances qui pourraient être organisées dans les cinémas mayennais.
Et maintenant, avant d'écouter la chronique Coup de cœur ciné avec Audrey d'Atmosphère 53, on va faire une petite pause en musique avec Stina de Django Deluxe.
Stina, what have you been up to lately? Got that look on your face. Stina, your bags are loaded. It's the way you behave. Standing in the corner in the dim light, smoking cigarettes in your black tights. I can see your shadows in the streetlight. Stina, why did you change your name? Stina, turn your back on the brothers. Then you quit this town. Stina, you got superpowers. Take over with one kiss. You've been on the run far too long now. Change your dress and color of your hair now. Daddy claims he only has 2 boys now. Stina, why did you leave this town? Thank you.
you're extra shady, you're the talk of this town. Stina, you're the dark-eyed lady, you're up for no good. Since you left, the boys are crying out loud. Mama took your pictures off the wall now. Left the squad, you're gambling with the wolf now. Stina, why did you leave your cage? You've been on the run for too long now. Change your dress the way you wear your hair now. Daddy claims he only has two boys now. Stina, you switched the side of this game. Stina, why did you change your name?
Django Deluxe, oula, j'en ai perdu mon élocution. Django Deluxe, Stina dans la JT du local. Vous êtes toujours à l'écoute de l'autre radio. Et comme l'a si bien annoncé Andy, on va passer à la chronique coup de cœur ciné avec de bonnes idées pour aller dans les salles obscures cette semaine et en tout cas une très jolie proposition d'Audrey d'Atmosphère 53.
Bonjour l'autre radio, bonjour à tous. Pour cette semaine cinématographique du 26 janvier 2022, l'association Atmosphère 53, donc l'association de cinéma en Mayenne, vous propose un total coup de cœur. C'est le film qu'on va mettre en avant cette semaine. Il s'appelle « Mes frères et moi » du réalisateur Johan Manka. C'est son premier long métrage de fiction. Et c'est un film d'une fraîcheur et d'une beauté incroyable qu'on veut absolument vous faire partager cette semaine. C'est l'histoire de Nour, qui a 14 ans. C'est l'été, il vit avec ses trois grands frères dans un quartier très populaire de Sète, en bord de mer. Sa mère est gravement malade, elle est plongée dans le coma et dans leur appartement, dans leur petit appartement. Les quatre frères tiennent coûte que coûte à la garder auprès d'eux, et livrés à eux-mêmes, ils se débrouillent un peu comme ils peuvent pour amener un peu d'argent à la maison. L'un revend des marchandises tombées du camion, l'autre deal, le troisième joue les gigolos auprès de touristes allemandes ou hollandaises dans la piscine d'un hôtel de luxe. Mais Nour, lui, ce qu'il aime, c'est écouter Pavarotti chanter. Alors, ce qui lui arrive, c'est que un jour qu'il fait des heures de travaux d'intérêt généraux dans un lycée, il tombe par hasard dans la classe d'une chanteuse lyrique qui anime un cours d'été. Et alors Nour va apprendre à chanter. Et c'est un film magnifique puisque c'est vraiment un film pour un premier film qui est d'une maîtrise incroyable dans la mise en scène, dans le jeu des acteurs. Et ce qui est surtout très très chouette, c'est qu'il déjoue mais tous les écueils du film social de banlieue, hein, où ça pourrait être assez misérabiliste, assez lourd et déjà vu. Là, on pourrait se dire que le sujet quand même du jeune de banlieue qui découvre la musique ou en tout cas l'art et qui s'en sort, ça peut être déjà très rebattu. En réalité, la vision qu'apporte le réalisateur est complètement fraîche et nouvelle, et il déjoue vraiment ces écueils du film social là, et au contraire c'est un film très très lumineux, plein d'humour, plein de tendresse, qui dresse le portrait d'une jeunesse débrouillarde et culottée et qui est encore capable de tendresse malgré la dureté de son quotidien. Et d'ailleurs, le chant ne va pas sortir Nour de sa condition et personne ne lui promet ça, mais au moins ça lui permettra de s'épanouir, de se découvrir et de rêver un peu. Et je pense qu'en plus, dans ce contexte de disette un peu d'espoir dans lequel on est tous, ben je pense que ce film fait particulièrement du bien. Il est sorti au cinéma le 5 janvier 2022 et donc c'est cette semaine-là qu'on vous le propose. Allez-y sans hésiter, c'est un film vraiment, vraiment magnifique. Très belle semaine et très belle découverte cinématographique.
Et oui, merci beaucoup Audrey. Donc, nouvelle chronique mardi prochain. Et puis, quand même, on vous rappelle et on vous précise que ce film « Mes frères et moi » passe cette semaine dans les cinémas d'Evron, de Goron et d'Ernée. On commence notre feuilleton cette semaine, et oui, une fois n'est pas coutume, mardi, avec une maison, c'est un peu spécial, un lieu collectif pour les jeunes dits au profil complexe, c'est-à-dire des jeunes qui ont parfois été violents ou subi des violences ou avec un handicap psychique et ou d'ailleurs. Et là donc c'est 10 places d'accueil temporaires qui ont été faute d'autres solutions, en tout cas pour les accueillir et pour les accompagner. 10 places d'accueil financées par le conseil départemental et gérées par l'association Domino Assystème qui travaille avec des professionnels en intérim. C'est ça un petit peu la particularité. Et toute cette semaine, on vous propose de découvrir une de ces maisons, son fonctionnement et ses différents acteurs. Et on va commencer aujourd'hui avec Marie-Odile Conan. C'est la chef des dispositifs de Domino à Système sur Laval. On l'écoute.
Et bien là, on se trouve sur une des premières maisons qui a été créée par Domino à Système Azeux au mois d'avril, à la demande du département pour accueillir en urgence des jeunes qui étaient sans institution, sans hébergement, qui avaient besoin d'un accompagnement de soins et éducatif, puisque nous accueillons ce qu'on appelle dans le milieu du social des situations complexes, des enfants qui présentent des maladies psychiques et de la déficience mentale, et dans un contexte social précaire et complexe. Nos accueils sont effectivement nommés comme une alternative aux autres accueils traditionnels, comme les MEX, les internats d'ITEP. Et nous, on est là en attendant que des places se libèrent en alternative lorsqu'un jeune met à mal tous ces dispositifs au fonctionnement traditionnel. On est une alternative à ce genre de profil. Une jeune qui a mis à mal 25 familles d'accueil, 11 établissements, elle est chez nous depuis l'ouverture. Et par notre fonctionnement souple et en même temps qui garantit toute la sécurité qu'il faut, elle est toujours chez nous, alors qu'elle n'a pas tenu ailleurs. Maintenant, au bout de 5 mois d'observation et de pratique, parce que ça fait que 5 mois que j'occupe ce poste, j'ai l'impression, j'observe que ce qui pourrait apparaître comme un défaut dans les établissements traditionnels peut devenir une vertu dans ce genre de dispositif. Par exemple, le changement de personne. On peut le vivre comme un turnover négatif, une instabilité. Mais moi, ce que j'ai constaté, c'est que quand les nouvelles personnes sont bien introduites, que les éducateurs qui sont présents accueillent l'intérimaire qui arrive de manière un peu inopinée, ça permet aussi aux jeunes de donner une autre image de lui, de redire des choses à une autre personne qui est complètement neuf, qui ne la connaît pas du tout. Et du coup, ça peut créer une autre dynamique par rapport aux jeunes. Pour le jeune, ça peut être une seconde chance, une autre manière de se présenter et d'avoir un petit peu le droit à l'oubli. C'est-à-dire que, effectivement, dans une équipe continue qui garantit la continuité, et on le fait, parce qu'il y a des personnes qui sont là depuis l'ouverture, donc qui tiennent ce fil, de la continuité. Et du coup, les autres personnes qui arrivent en plus donnent aux jeunes la chance de pouvoir dire autre chose autrement. On a des contrats mois par mois, ou semaine par semaine, ou même à la journée. Parce que quand j'ai eu des professionnels qui ont été positifs, c'est vrai que tous les autres établissements traditionnels, ils ont eu recours à l'intérim. Mais moi, du coup, c'est mon fonctionnement classique. Et donc, c'était vraiment, pour les jeunes, une garantie d'avoir toujours un professionnel avec eux. Même s'ils n'avaient jamais rencontré, moi, je pouvais garantir le côté sanitaire et le côté sécurité, le côté éducatif. Donc, c'est vrai que ce qui peut apparaître comme un défaut, on l'a transformé un peu en vertu de fonctionnement, en fin de compte.
Effectivement, et on verra d'ailleurs demain très concrètement comment ça se passe, quel est le fonctionnement au sein de ces accueils collectifs. Prochain épisode, donc demain, mercredi. C'est la fin de notre émission L'Agité du Local. Merci Andy, à demain.
Merci à toi, ouais, à demain, on se dit à demain.
On se retrouve demain à 12h15, comme tous les jours pour votre quotidienne d'actu locale, mais à 19h, ne manquez pas. Les Agités du mois, c'est justement une petite compilation des feuilletons de ce mois dernier diffusés dans cette émission. Ce sera suivi à 20h de The Voice of Cassandre et à 21h de Frères de Chaussures. Et puis, comme Andy l'a dit, on se retrouve demain à midi, à 12h15 en tout cas, je vous souhaite une très belle journée et un très bel après-midi.